Le QI est en train de baisser.
Les perturbateurs endocriniens mettraient notre intelligence en danger.
Depuis 1975, le QI décline dans les pays développés.
Nous devenons de plus en plus stupides. Ça se passe en ce moment.
Qu'il s'agisse des programmes scolaires dont on moque la simplification à outrance, il suffirait aujourd'hui de colorier un rectangle pour avoir son bac, d'Internet qui a redonné vie aux plus imbéciles des théories du complot ou à des vidéos de petits chats en lieu et place du partage du savoir, de programmes télé qui donnent la part belle à des brochettes de jeunes gens hystériques et assez peu portés sur la chose intellectuelle, des animateurs, des journalistes, des élites politiques que l'on suspecte ouvertement de n'avoir plus aucune culture philosophique ou historique, bref, nous aurions depuis quelques années basculé dans une forme d'idiocratie, ou pour le dire plus simplement, nous sommes en train de devenir collectivement stupides à vitesse grand C. Bonjour Franck Ramu.
Bonjour.
Vous êtes chercheur CNRS en psychologie et neurosciences au département d'études cognitives de l'École normale supérieure. Alors est-ce que nous sommes aujourd'hui plus bêtes qu'hier ?
Non, il n'y a pas de raison de le croire. Il y a un concept qui est scientifiquement valide, qui s'appelle l'intelligence générale. Ça représente ce que toutes nos fonctions intellectuelles ont en commun. Et donc ça se mesure en administrant une batterie de tests les plus variés possibles, qui sont nos différentes fonctions intellectuelles, et puis en faisant une espèce de moyenne générale des scores dans tous ces tests. Et c'est cette moyenne générale, ce score, qui représente une estimation de notre intelligence générale. Et puis après, ce score d'intelligence générale, eh bien, on le ramène à la moyenne de la population dans chaque pays, et donc on fait ce qu'on appelle le quotient intellectuel, auquel on donne arbitrairement la valeur 100 pour la moyenne de la population, et un écart type de 15. Autrement dit, les deux tiers de la population française ont un QI qui est compris entre 85 et 115. Est-ce que ces scores évoluent dans le temps ? La réponse est oui. Depuis l'époque où on a commencé à faire des tests d'intelligence, donc au début du XXe siècle, ces tests ont été administrés à des très grandes populations dans des dizaines de pays. Et oui, on a vu une évolution très significative, une augmentation des scores d'environ 3 points par décennie. Ça veut dire qu'en un siècle, les populations de tous les pays du monde ont progressé de 2 écarts types de la population. Autrement dit, quelqu'un qui a une intelligence moyenne aujourd'hui, il y a un siècle, c'est comme s'il était surdoué. On a toutes les raisons de penser que les grands facteurs qui ont joué, c'est l'amélioration de la nutrition, le fait qu'il n'y a plus de malnutrition dans beaucoup de pays, l'amélioration de la santé, et puis l'amélioration de l'éducation. La scolarisation s'est généralisée et de plus en plus précoce, et puis aussi à l'environnement familial et social qui est aujourd'hui infiniment plus riche et complexe que ça n'était le cas il y a un siècle. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que sur la dernière période, les derniers 20 ou 30 ans, il n'y aurait pas une décroissance des scores d'intelligence ? Et certains d'apporter des hypothèses pour expliquer que oui, ça serait dû à notre exposition aux pesticides, aux perturbateurs endocriniens, ou aux écrans, ou à encore je ne sais quoi d'autre. Est-ce qu'il y a une décroissance des scores ? Il y a quelques études, effectivement, qui montrent que dans certains pays, sur les deux dernières décennies, il y aurait une légère baisse des scores de QI moyen de la population. Ça a l'air d'être essentiellement dans des pays du nord de l'Europe, comme la Norvège, le Danemark, qui en l'occurrence sont des pays à faible densité de population, où il n'y a pas une agriculture intensive, où les gens sont faiblement exposés aux pesticides. Donc on voit tout de suite que les explications proposées à l'appui d'une baisse sont clairement pas plausibles. Il y a quand même une évolution, c'est-à-dire que au lieu de continuer à monter en flèche, les scores de QI augmentent moins vite qu'auparavant. On atteint une espèce de plafond des scores de QI, et donc évidemment on peut se poser la question pourquoi. On est des êtres humains avec un organisme, avec un cerveau qui a 100 milliards de neurones. On est limité par certaines contraintes physiologiques. Il y a d'autres propriétés de l'être humain qui suivent la même tendance, hein, la taille des individus. Mais on voit aussi que les tailles commencent à plafonner. On ne va jamais atteindre 3 mètres, c'est évident. De même, l'espérance de vie a beaucoup augmenté, mais on ne va jamais atteindre 200 ans.
Mais alors Franck Ramu, d'où vient ce sentiment partagé par beaucoup qui est que aujourd'hui, notamment les élèves seraient moins intelligents qu'ils ne l'étaient si on compare par exemple les épreuves du bac d'il y a 50 ans, le sentiment que les programmes télévisuels sont plus bêtes que ceux qui étaient proposés pareil il y a 40-50 ans, est-ce que c'est un biais de perception ou est-ce qu'il y a tout de même une forme de réalité ?
Oui, alors évidemment, toutes ces constatations qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, faut bien comprendre, ce ne sont pas des observations scientifiques, bien soigneusement sûr. Contrôlées. Si on regarde l'évolution du niveau d'un diplôme comme le baccalauréat, il faut comparer des choses comparables. C'est vrai que le niveau du bac aujourd'hui est inférieur au niveau du bac quand moi je l'ai passé en 89 et inférieur au niveau qu'il avait en 1970. Il suffit de regarder les programmes pour le constater. Mais ça ne dit rien sur le niveau moyen de la population. Parce qu'aujourd'hui, il y a 80% d'une génération qui passe le bac, alors qu'en 1970, il n'y en avait que 20%. Donc on regarde des tranches de la population qui ne sont pas du tout les mêmes. Il est fort possible que le niveau du bac moyen ait baissé, mais que comme plus de monde le réussit, en fait le niveau moyen de la population, lui, n'a pas baissé. Et il a même probablement encore progressé entre 1970 et aujourd'hui. Les données scientifiques objectives ne disent pas que c'était mieux avant.
Est-ce que ça pourrait être également, effectivement, il y a, outre la révolution numérique, le rapport à Internet, le rapport au savoir, le rapport à la mémoire ou à la culture, tout ça sont des choses qui se sont modifiées par rapport à ce que les générations plus âgées ont connu. On n'a plus besoin d'apprendre par cœur parce qu'on a une extension de mémoire dans notre poche. Le rapport à la culture, à la connaissance n'est plus tout à fait le même. Est-ce que ça pourrait expliquer ce sentiment aujourd'hui d'une perte d'intelligence des nouvelles générations ?
Ça fait probablement partie du tableau, c'est-à-dire que auparavant, le système éducatif et la société valorisait beaucoup plus l'acquisition de la connaissance, c'est-à-dire vraiment le fait d'apprendre par cœur un certain nombre de choses, de connaître sur le bout des doigts toutes les grandes dates de l'histoire de France. Donc effectivement, les connaissances factuelles avaient une importance très grande dans la société d'il y a 50 ans, et aujourd'hui, on accorde beaucoup moins d'importance à ces connaissances factuelles, mais en même temps, on est aussi exposé à des situations, à des activités qui sont d'une complexité cognitive, qui sont incomparables par rapport à ce qu'il y avait il y a 50 ans. Donc,
par exemple, vous pensez à quoi ?
Non, le seul fait de manipuler une tablette ou un smartphone, vous mettez ça dans les mains d'un ado d'il y a 50 ans, il ne saurait pas quoi en faire. Donc si vous voulez, on est vraiment dans un monde qui est différent et dans lequel l'intelligence humaine va se manifester de manière différente. Et donc évidemment, si on juge les jeunes d'aujourd'hui par rapport à ce qui était considéré, valorisé il y a 50 ans, évidemment, ils ont l'air moins bien. Mais ils font plein d'autres choses que la génération d'avant ne faisait pas.
On entend beaucoup dire que la capacité au multitasking, c'est-à-dire à faire plusieurs choses en même temps, à prendre plusieurs paramètres pour un même type d'activité intellectuelle, est quelque chose qui s'est beaucoup développé alors que ça n'était pas très valorisé auparavant. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut constater scientifiquement ? Est-ce que ça a un sens ou est-ce que là aussi c'est juste un a priori ?
Disons, si vous voulez faire du multitâche, en vérité c'est une illusion. Le cerveau humain, il n'est pas capable de faire plusieurs choses à la fois, il en fait seulement une à la fois. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où notre attention est sollicitée en permanence par de multiples sources. Et donc c'est vrai qu'on a une tendance à sauter très rapidement d'un objet à l'autre, d'une activité à l'autre, parce que notre attention est constamment sollicitée, probablement plus qu'elle ne l'était auparavant, où on avait un livre entre les mains, on avait beaucoup moins de distractions. Le fait que notre attention soit plus sollicitée aujourd'hui, ça nous entraîne pas au multitâche, parce qu'on n'est pas capable de faire du multitâche, mais c'est vrai que ça modifie la forme de notre activité, ça fait qu'on saute de plus en plus d'une activité à l'autre, et c'est vrai qu'on se concentre moins de temps sur chaque activité.
Ça veut dire que, par exemple, ce rapport à la concentration, c'est de facto quelque chose qui a changé. On sait moins se concentrer, on a perdu ce rapport justement à l'isolement sur une tâche unique par rapport à ce qui pouvait être le cas auparavant dans les méthodes d'enseignement.
On n'a pas perdu en capacité cognitive, si vous voulez. C'est une question d'habitude. On n'a pas encore appris à dominer l'environnement qui est le nôtre et les outils qui sont les nôtres. On n'a pas encore appris à éteindre notre téléphone portable quand on veut se concentrer sur quelque chose. Voilà, on a toutes ces possibilités qui nous sont offertes, tous ces outils merveilleux. Et il faut apprendre à rester le maître de ces outils et pas à devenir leur esclave.
Merci beaucoup Franck Ramu. Je rappelle que vous êtes chercheur CNRS en psychologie et neurosciences au département d'études cognitives de l'École normale supérieure.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.